Les dessous de l'infox. Romain Ouzoui.
Leur nom comporte une grande part de mystère. Que révèlent les sociétés secrètes? Elles ont toujours existé dans l'histoire, des Rose-Croix au XVIIe siècle, au mouvement numérique comme Anonymous. Comment fonctionnent ces sociétés secrètes? Quels sont leurs rites? Quelle est la part d'imaginaire liée à cela? Et où commence l'infox, qui s'exprime souvent par le conspirationnisme? Quel impact sur nos sociétés? Notre invité ce soir est Pierre-Yves Beaurepaire, qui publie l'ouvrage « Les sociétés secrètes ». Les plus grandes stars américaines chantent-elles leur soutien au chef de la junte au Burkina Faso? Plusieurs clips circulent actuellement sur YouTube, sur lesquels les visages de Beyoncé ou encore R. Kelly s'affichent. Et ce message, « God protect Ibrahim Traoré », que Dieu protège Ibrahim Traoré, eh bien il s'agit de fausses vidéos générées par l'intelligence artificielle. Quang Pham, journaliste aux Observateurs de France 24, a enquêté sur le sujet. Soyez les bienvenus dans les dessous de l'Infox. Voici pour débuter la chronique d'Olivier Four, de la cellule Info Vérif de RFI. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Et on parle ce soir de Léon XIV, évidemment qui est au cœur de l'actualité, 15 jours après son élection en tant que pape de l'Église catholique. Il a lancé officiellement le week-end dernier son pontificat lors d'une messe inaugurale au cours de laquelle il a donné le ton, dénonçant une économie qui exploite la nature, qui laisse de côté les plus pauvres. Cette semaine, il a lancé un appel à Israël pour que l'aide humanitaire puisse entrer à Gaza. Ça, Olivier Four, ce sont les propos qu'il a tenus, car d'autres lui sont attribués, il n'en est pas l'auteur. Plusieurs infox circulent en effet concernant Léon XIV et l'une d'entre elles a retenu votre attention.
Oui, cette infox, on l'a trouvée avec l'aide du journaliste arabophone Al Arzam, qui était avec nous à la cellule Info Vérif cette semaine. La fausse information dont on parle prend la forme de tweets sur X et de posts sur Facebook rédigés en arabe, laissant penser à tort que le nouveau pape a tenu des propos anti-islam ou racistes. Dans une vidéo d'une dizaine de minutes, on le verrait dénoncer, je cite, une invasion de l'Europe par les musulmans, détaillant une soi-disant stratégie visant à changer l'identité chrétienne du continent européen. En réalité, le pape n'a jamais dit ça, que ce soit d'ailleurs avant ou après le début de son pontificat.
Et pourtant, on pourrait le croire parce que cette vidéo est particulièrement trompeuse.
Oui, car la personne qui prononce ce discours ressemble beaucoup au pape Léon XIV. Donc tout d'abord, on a cherché à savoir si la vidéo n'avait pas été générée par un outil d'intelligence artificielle, puisque c'est déjà arrivé pour donner naissance à un pape virtuel. Le logiciel que nous avons employé nous a indiqué qu'il y avait 0% de chance pour que la vidéo ait été fabriquée par l'IA. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de deepfake, il n'y a pas d'hypertrucage. Mais comme la ressemblance est vraiment frappante, on a ensuite utilisé un petit logiciel gratuit permettant de détecter les sosies. Résultat, entre 49 et 55% de similarité entre le visage de l'homme qui apparaît sur la vidéo et le portrait du pape Léon XIV. Ça fait à peu près une chance sur deux pour que ce soit lui à l'image. Pas suffisant pour en tirer des conclusions, surtout que l'on sait que ces outils ne sont pas fiables à 100%.
Alors, est-ce que dans vos recherches, Olivier Four, vous êtes parvenu à identifier ce faux pape?
Oui, on l'a trouvé. On a fait une recherche par image inversée et ça nous a permis de retrouver la trace sur YouTube d'une longue vidéo dont la dernière partie correspond exactement à l'extrait que l'on trouve dans l'infox. Et la personne que l'on voit à l'écran est bien un homme d'église, mais c'est l'évêque d'Astana, au Kazakhstan. Il s'appelle Athanasius Schneider. Il est connu pour ses prises de position conservatrices et il a fait ses déclarations sur cette prétendue invasion de l'Europe lors d'une rencontre filmée dans une église du New Jersey aux États-Unis le 23 octobre 2016. On retrouve d'ailleurs des photos de son passage sur le site internet de la paroisse.
Comment est-ce qu'on peut analyser cette infox? Elle utilise une vidéo sortie de son contexte jouant sur une forte ressemblance entre cet évêque et le pape. Le but, c'est de marquer les esprits.
Voilà, la première chose qui frappe, c'est la ressemblance. Et donc, on a cherché à en savoir un petit peu plus en regardant ce qu'il y avait sur l'image, dans le détail, les éléments de décor. Par exemple, on voit que celui qui est présenté comme le pape porte la soutane violette des évêques et non la grande tenue blanche du souverain pontife. Donc, ça ne colle pas. L'audio donne aussi des indications. L'accent de Léon XIV est bien celui d'un natif des États-Unis, alors que l'anglais de l'évêque Schneider qui apparaît à l'écran est plus hésitant. Enfin, rappelons que toutes les déclarations publiques du pape sont disponibles sur le site officiel Vatican News. Donc, si vous avez un doute, allez-y. D'ailleurs, le Vatican fait aussi du fact-checking.
Oui, la preuve, le Vatican récemment a identifié une fausse vidéo selon laquelle le pape Léon XIV aurait apporté son soutien au chef de la junte burkinabé, Ibrahim Traoré. D'ailleurs, on va parler d'un fox autour d'Ibrahim Traoré à la fin de cette émission. Merci Olivier Four.
Merci.
De la cellule Info Vérif de RFI. Place à présent à l'entretien des dessous de l'Infox et nous évoquons ce soir les sociétés secrètes avec Pierre-Yves Beaurepaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Nice, dans le sud de la France, et vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université Côte d'Azur, membre de l'Institut universitaire de France. Et vous publiez « Les sociétés secrètes, des rose-croix aux Anonymous » aux éditions Talendier, dans lequel vous évoquez l'histoire de ces entités qui sont empreintes de mystère, leurs rites, et puis la part de conspirationnisme, d'un fox que ces sociétés secrètes peuvent comprendre. On va évidemment y venir, mais d'abord, l'histoire, justement, à quel point est-ce que elle est jalonnée, Pierre-Yves Beaurepaire, de ces sociétés secrètes ?
En fait, les sociétés secrètes sont aussi vieilles que l'histoire elle-même. Dans l'Antiquité, on évoque déjà les Pythagoriciens et toutes les cultes à mystère qui se déroulent à Eleusis. Et de là, on va très, très vite vers la société secrète. Et ce que j'ai essayé de faire dans le livre, en me concentrant, c'est déjà beaucoup, sur le début du XVIIe siècle jusqu'au XXIe siècle, c'est de voir à quel point elle raconte toute notre histoire sous l'angle des sociétés secrètes. Et comme vous le disiez il y a un instant, il y a toujours cette dimension derrière, sulfureuse, mystérieuse. Qu'est-ce qu'elle cache? Moi, j'avais pensé comme titre au départ d'appeler la confrérie des invisibles, parce que c'est cette notion d'invisible qui revient depuis le début, depuis les Rose-Croix jusqu'aux Anonymous. Et donc, c'est tout à fait révélateur. En passant par le Ku Klux Klan, qui s'appelle lui-même l'Empire invisible, c'est quelque chose d'assez caractéristique.
Mais comment se traduit cet invisible?
Alors, cet invisible, en fait, c'est ça qui nourrit le fantasme. C'est l'idée que la société secrète, elle peut être à deux pas de vous. Elle peut avoir un représentant en face de vous, à côté de vous. Vous ne le connaissez pas, mais c'est lui qui pèse sur le cours de l'histoire, sur le cours de votre propre vie, sur les décisions politiques, sur des changements radicaux, en se dissimulant derrière un rideau de fumée. Alors, bien sûr, il y a la capuche, le masque, il y a toute cette dimension-là vestimentaire et tous les codes qui vont avec, qui font que seuls ceux qui en sont vont pouvoir savoir qu'il existe une société secrète qui mène le monde. Et dans le livre, par exemple, je fais en permanence le lien entre histoire et fiction, parce que la première des sociétés secrètes modernes, la Rose-Croix, est d'abord née d'une fiction littéraire qui a eu tellement de succès que des gens se sont dit, eh ben, on va en faire une réalité. Et quand on va jusqu'aux Anonymous, les Anonymous ont repris le masque de Guy Fawkes, le héros malheureux d'un complot en Angleterre au début du XVIIe siècle, pour en faire un symbole de lutte secrète en faveur de la liberté.
Alors c'est intéressant parce que vous avez commencé à évoquer, et on va y revenir, l'influence des sociétés secrètes sur nos sociétés, pour le meilleur et pour le pire certainement aussi, puisqu'on va parler évidemment de la désinformation. Vous avez aussi commencé à évoquer les attributs, le masque notamment, des sociétés secrètes. Au-delà de ça, qu'est-ce qui ressort de votre ouvrage sur les rites, sur le fonctionnement de ces sociétés secrètes? Il y a des points communs, il y a des mécanismes communs. Vous avez évoqué ces attributs. Au-delà de ça,
oui, c'est vraiment quelque chose de très important. Elles ont une structure commune où le secret est à la fois pour protéger les membres des interactions extérieures, dissimuler leur identité réelle. On a souvent des noms d'ordre dans ces sociétés secrètes pour que votre état civil ne puisse pas être affiché. Donc le secret est protecteur, le secret est publicitaire. Ce qui est vraiment frappant, hier comme aujourd'hui, et c'est lié aussi après aux infox, hein, c'est que la société secrète, même si elle se dit secrète, elle est très bavarde, elle communique beaucoup, elle échange, etc. avec le public, alors qu'elle dit en même temps qu'elle le tient à distance. Parce qu'en échangeant avec le public, elle attire de nouveaux membres. Avoir la perspective de devenir membre d'une société secrète, c'est extraordinairement flatteur pour l'ego.
Mais ça se manifeste comment, ces échanges avec le public? Comment ils peuvent intervenir si la société est secrète?
Alors justement, c'est ça qui est absolument fascinant. Et quand je parle de révolution Rose-Croix, pour le début du XVIIe siècle, il faut imaginer que les mouvements rosicruciens existent toujours 4 siècles après. Au départ, c'est 3 manifestes, donc on veut vraiment frapper le public, produits par des étudiants qui deviendront après certains des hommes d'État, théologiens, etc., qui sont sous l'angle de la fiction. Et qui disent tout simplement, nous avons la possibilité de communiquer à distance et de s'adresser à celles et ceux que nous choisirons pour nous rejoindre. Et cette dimension-là, la société secrète qui a des pouvoirs de communication à la fois instantanée, à distance, secret, que le commun des mortels n'a pas, on l'a jusqu'aux Anonymous. On l'a du début du XVIIe siècle avec la sphère de l'imprimé jusqu'à Internet. Et ça, c'est le point commun, c'est-à-dire cette capacité à entrer en communication, soit pour séduire, soit pour frapper ou nuire, soit pour protéger celles et ceux qu'on veut protéger. Et ça, c'est une constante. Chacune d'entre elles se nourrit des références, des précédentes, soit pour considérer qu'elle est leur héritière, soit au contraire pour dire qu'elle combat. Et bien évidemment, ça fait de ces sociétés secrètes autant de figures de choix pour la fiction. Et comme la première d'entre elles est née d'une fiction, eh bien, moi je reprends aussi bien des jeux vidéo type Assassin's Creed, on a 2 sociétés secrètes qui s'affrontent, hein. D'un côté la secte des assassins, de l'autre les Illuminati qui seraient le bras armé des chevaliers templiers, et vous avez 4 siècles aussi de fiction qui se nourrit de l'imaginaire des sociétés secrètes, qui fait que nous tous, même si on ne sait pas exactement, puisqu'il doit y avoir ce voile de mystère, quand on vous parle de sociétés secrètes, on a tous des images. Des images comme ça, de masques, de cachets, de pouvoir dissimuler, de rencontres secrètes. Donc, il y a un visuel extrêmement fort. Et de la même façon, ces sociétés secrètes s'alimentent à la fiction pour développer un discours, un narratif, à la fois séducteur. Et vous devez avoir peur en même temps. La société secrète séduit par le goût du secret et en même temps, elle doit terrifier ses adversaires. Et quand j'évoquais le Ku Klux Klan, c'est tout à fait ça, parce que nous, on voit que le Ku Klux Klan, avec son côté sinistre, barbare, ses agressions, ses crimes, mais il y a eu toute une construction symbolique avec des lieux pour dire que le sud des États-Unis, après la guerre civile, s'opposait au nord, avec une référence aussi à des cercles secrets de l'Antiquité, donc ils ont revisité complètement l'univers, ils se sont dotés d'un propre vocabulaire. Dans une société secrète, on a un lexique propre, un vocabulaire propre, avec des titres ronflants, vous deveniez grand sorcier impérial, faucon de la nuit, etc., qui ont fait que certaines personnes tout à fait ordinaires se sont complètement immergées dans cet univers-là. Et puis ensuite, vous proposez à la fois une histoire alternative, là c'est dans le cas de la guerre civile américaine, non, le Nord n'a pas gagné, le Sud résiste encore et va gagner, et ça vous permet ensuite de légitimer les actions politiques ou criminelles les plus sordides.
Vous évoquez ces sociétés secrètes qui naissent de fiction. Dès lors, comment on peut distinguer l'imaginaire et la réalité? À quel point la frontière est poreuse dans ces sociétés secrètes et quelles conséquences?
Ça, c'est tout à fait important parce que, en fait, le principe, c'est de brouiller systématiquement le plan historique, les faits, les causes, les conséquences politiques, etc., et le plan de la fiction. C'est-à-dire que, et là on voit bien dans une perspective d'un Fox, que les sociétés secrètes, elles inventent un discours alternatif, elles inventent une histoire alternative qui fait que la défaite devient une victoire, qui fait aussi que, par exemple, vous allez dire que l'histoire officielle raconte telle ou telle chose, mais l'histoire secrète raconte une toute autre histoire. Et à partir du moment où vous réussissez à instiller le doute et que ce doute grandit, vous pouvez proposer une réécriture complète de l'histoire. Je prends juste un exemple, j'ai un chapitre sur la société secrète dans la fiction contemporaine, et les séries d'aujourd'hui adorent les sociétés secrètes, et si je prends c'est même plus une série, c'est un ensemble de séries de bandes dessinées qui s'appelle 13, et vous avez une franco-belge à l'origine, vous avez une réécriture complète de l'histoire américaine. Alors au départ, on a une sorte d'inspiration, comme si on revisitait l'assassinat des deux frères Kennedy, mais au fur et à mesure des séries, sur 20 ans, on revient jusqu'aux origines des États-Unis, et les pèlerins du Mayflower, par exemple, seraient les acteurs d'une véritable conspiration. Alors, bien évidemment, avec ce qui se passe aujourd'hui politiquement outre-Atlantique, c'est une formidable, il y a un effet d'aubaine hein, qui fait que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et donc, vous pouvez réécrire comme ça 4 siècles d'histoire américaine ponctuée de complots, de conspirations, de faux-semblants. À chaque nouveau chapitre, bah, vous ouvrez un océan de possibilités pour les scénaristes et les amateurs en même temps de ces scénarios à rebondissement. Donc, l'histoire et fiction se nourrissent mutuellement et franchement, vu l'offre actuelle, ce n'est pas prêt de s'arrêter.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous diriez que les sociétés actuelles entretiennent les sociétés secrètes ou est-ce que c'est le contraire ?
Alors moi, je dirais les deux parce que toute société secrète se revendique ou s'imagine une histoire. C'est-à-dire qu'il y a des récits de fondation, il y a des obstacles qu'elles ont dû ou que leurs leaders charismatiques ont dû lever, etc. Donc, toute société secrète s'inscrit dans une histoire. Et en même temps, elle se veut en phase avec l'immédiateté de l'histoire. Et ça, on le voyait très bien, par exemple, dans V for Vendetta, qui est à l'origine des Anonymous, qui eux-mêmes, comme je disais tout à l'heure, revisitent le début du XVIIe siècle. Leur idée, c'est la naissance d'un pouvoir dystopique dans la Grande-Bretagne contemporaine. C'est la lutte, à l'époque, contre l'héritage Margaret Thatcher, etc. Donc, il y a un chassé-croisé permanent entre le présent, le futur dramatique qui nous attend si les sociétés secrètes ne se lèvent pas, et en même temps, une histoire revisitée. Donc, vous ne savez plus si vous êtes au présent, si c'est le futur immédiat qui vous est dévoilé, souvent terrifiant, ou si c'est une clé de lecture du passé. Et cette volonté assumée de mélanger le passé, le présent et le futur fait que, là aussi, c'est un formidable réservoir à histoire et à une façon de recycler en permanence de l'ancien pour en faire les clés de compréhension du futur.
L'invité des Dessous de l'Infox est ce soir Pierre-Yves Beaurepaire, professeur d'histoire moderne à l'Université Côte d'Azur, membre de l'Institut universitaire de France et auteur des Sociétés secrètes, des Rose-Croix aux Anonymous aux éditions Talendier. Dans la première partie de cet entretien, on a évoqué la puissance, l'histoire de ces sociétés secrètes, la porosité entre imaginaire et réalité, entre, vous venez de dire, Pierre-Yves Beaurepaire, passé, présent, futur. À présent, j'aimerais savoir l'impact que cela a sur nos sociétés, toutes ces sociétés secrètes, le conspirationnisme que vous avez évoqué, qu'elles peuvent générer, l'histoire alternative qu'elles peuvent proposer.
Alors, honnêtement, l'impact est énorme, permanent et assez glaçant. Alors, je m'explique. Lorsqu'il y a cette première société secrète et cette révolution aux Rose-Croix, il faut imaginer donc un petit groupe d'étudiants qui imagine des textes, qui imagine une confrérie des invisibles. 3 années de suite, 1614, 15, 16, succès de librairie énorme, toute l'Europe en parle, savants, des princes, etc. Et ça marche tellement bien, ça plaît tellement, que des dizaines de personnes partent à la rencontre de cette confrérie, hein, qui, elle, a une vision tout à fait positive. Hein. Ce n'est pas le Ku Klux Klan, au contraire, elle veut soigner les maux de l'Europe qui est au bord de l'abîme, c'est la guerre de 30 ans à cette époque-là, etc. Des gens partent à leur rencontre. Bien sûr, ils ne les trouvent pas, puisqu'au départ, c'est une fiction littéraire. Que font-ils ? Ils créent. Donc, c'est la dimension performative du discours. Le projet est tellement séduisant que des gens disent « ça ne peut pas rester que sur le papier, ça ne peut pas rester qu'un succès de librairie, on crée cet ordre-là ». Et en fait, cet ordre, bah, c'est l'ordre du phénix, au vrai sens du terme, qui va être relayé jusqu'à l'époque contemporaine, jusqu'à J.K. Rowling et Harry Potter, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse avoir une confrérie hein, de membres secrets qui se réunissent pour ici se protéger contre les forces du mal, avec un symbole, celui de la Renaissance, celui du phénix. Et toute une série d'éléments de notre imaginaire aujourd'hui, dont on ne sait même pas qu'ils viennent de là, alors qu'au départ, bah, c'est un succès de librairie. Et ça, c'est pour le point de départ, mais c'est vrai tout au long de l'histoire. Les Carbonari, par exemple, qui est la société secrète libérale au sens de contestataire de l'ordre établi quand il y a toute la réaction politique du début du 19e siècle, après les guerres de révolution et de l'Empire, dans toute l'Europe, eh bien, les Carbonari, eux, pèsent vraiment sur le cours des choses pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils veulent se débarrasser des pouvoirs d'Ancien Régime, donc ils organisent des conspirations, ils organisent des complots militaires, des insurrections. Ils se dotent d'une figure emblématique, c'est Lafayette, c'est plus le jeune Lafayette de la guerre d'indépendance américaine, c'est le vieux Lafayette des années 20, sorte d'oracle de la liberté, le héros des deux mondes, comme on le dit à l'époque, le nouveau et l'ancien, et ça marche formidablement bien, à tel point que la police se fait intoxiquer, c'est-à-dire que quand il y a 30 membres, elle imagine qu'il y en a des centaines. Voilà. Et ça, on les a aussi bien à l'œuvre dans les révolutions sud-américaines que dans toute l'agitation sociale et politique du premier 19e siècle.
En quelques mots, et pour résumer votre propos, est-ce que vous diriez que les sociétés secrètes ont une responsabilité importante dans la prolifération des infox observée actuellement dans nos sociétés ?
Moi, je trouve qu'elles sont à la fois le symptôme, parce qu'elles sont omniprésentes. Le précédent livre que j'avais fait, c'était sur les Illuminati, pour voir à la fois ce qui avait vraiment existé, les Illuminaten en Allemagne, et puis ensuite le mythe Illuminati. Et ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, pas un adolescent n'ignore qui sont les Illuminati ou qui on croit être les Illuminati, alors que moi, à leur âge, j'en ignorais tout. C'est-à-dire qu'il y a une omniprésence de la société secrète, parce que précisément aujourd'hui, avec l'apparition d'un discours alternatif sur tout sujet, alors histoire, science, etc., notre univers est totalement saturé de références qui relèvent de la fiction, moi je dirais plutôt du narratif, c'est-à-dire raconter une histoire. Et cette histoire n'est pas forcément fausse, mais elle s'affranchit des données factuelles, elle revisite un certain nombre de choses. Si vous me permettez juste un exemple, moi ce qui m'a frappé, c'est de voir que lorsqu'on a évoqué l'élection présidentielle américaine de 2020, pas celle de 2024, on a dit aux États-Unis, l'élection a été volée, enfin notamment les MAGA disaient, a été volée à Donald Trump, au président sortant. Et pour nous, c'était quelque chose d'assez nouveau, etc. Alors qu'en fait, deux siècles plus tôt, aux États-Unis, on dit exactement la même chose. L'élection générale de 1800, le président sortant, John Adams, dit « Le candidat des sociétés secrètes, Thomas Jefferson, que nous on connaît bien comme celui de le rédacteur de la Déclaration de l'indépendance, celui qui va être élu effectivement en 1800, m'a volé l'élection. » Et donc, en fait, il y a une façon aussi d'inscrire les sociétés secrètes sur notre imaginaire politique et sociétal temps long, sur quatre siècles, et à chaque fois, cet imaginaire-là puise dans des références historiques.
Il y a des interactions sans cesse entre sociétés secrètes et sociétés, c'est ce qui ressort de notre entretien, Pierre-Yves Beaurepaire. Dès lors, est-ce qu'il faut lutter, ce sera ma dernière question, est-ce qu'il faut lutter contre les sociétés secrètes, et est-ce qu'on peut lutter contre les sociétés secrètes, et est-ce que lutter contre les sociétés secrètes peut permettre de faire reculer la prolifération de désinformation ?
Alors, la question est passionnante, mais je la prendrai dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on a abandonné, donc oui, lutter, oui, mais on a abandonné l'esprit critique. Je m'explique. On n'arrête pas d'invoquer les Lumières, le siècle des Lumières, etc., qui était celui qui avait la volonté de rendre tout transparent. Et aujourd'hui, ces invocations-là, elles ne fonctionnent pas. Parce que ceux qui subissent ou qui sont les vecteurs des théories complotistes et de l'infox sont ceux qui revendiquent pour eux l'esprit critique, la raison, en disant que tout ce qui est, par exemple, média mainstream, au contraire, a anesthésié l'esprit public, l'esprit critique, etc. Et donc, je pense qu'en fait, parce qu'on a abandonné ce combat-là en pensant qu'il était gagné, que les Lumières avaient gagné, on a nourri, on a ouvert la porte à toute cette vision particulièrement sombre et complotiste de l'histoire qui place la société secrète comme acteur majeur. Et je pense que d'abord, il faut viser à reconquérir, à faire preuve d'humilité, à reconquérir l'esprit critique et à essayer de mettre des petits, parce qu'il faut être modeste, des petits grains de sable dans des rouages qui tournent actuellement à toute vitesse.
Oui, balayer devant sa porte sur le plan de la désinformation avant de s'en prendre aux sociétés secrètes. Merci. Pierre-Yves Beaurepaire, merci à vous, professeur d'histoire moderne à l'Université Côte d'Azur, membre de l'Institut universitaire de France, auteur donc des Sociétés secrètes, des Rose-Croix aux Anonymous, aux éditions Talendier. God protected by him, in the battle for the peace. God Protect Ibrahim Traoré en français. Que Dieu protège Ibrahim Traoré, le chef de la junte militaire au Burkina Faso. La voix que l'on entend, c'est celle de la chanteuse Beyoncé. Et comme elle, plusieurs stars américaines chanteraient les louanges du capitaine burkinabé dans des clips bien orchestrés que l'on retrouve sur YouTube. Oui, mais tout cela est faux. Il s'agit de vidéos générées par l'intelligence artificielle. Bonsoir, Quang Pham.
Bonsoir.
Journaliste aux Observateurs de France 24. Alors, vous vous êtes penché en détail sur ce phénomène. Et il s'avère que plusieurs centaines de deepfakes musicaux à la gloire d'Ibrahim Traoré ont été, ces dernières semaines, publiés sur les réseaux sociaux.
Oui, on a compté pas moins de 294 faux clips vidéo publiés ces trois derniers mois sur 127 chaînes YouTube. Toutes ces vidéos se rapportent à un seul titre, que Dieu protège Ibrahim Traoré. La chanson est chantée dans une quinzaine de versions différentes par Beyoncé, R. Kelly, mais aussi d'autres artistes comme Justin Bieber.
Oui, on peut aussi citer Eminem, que l'on retrouve dans ses faux clips. Qu'est-ce que cette chanson, Quang, raconte exactement?
Alors, il s'agit d'une ode à Ibrahim Traoré. Le clip montre le chef d'État héroïque au front ou réconfortant un homme blessé. Il se bat pour la paix dans sa patrie. Il est la voix du peuple, on entend dans les paroles. Ces clips servent donc à promouvoir l'image d'Ibrahim Traoré. Le dirigeant aspire à être le nouveau Thomas Sankara. C'est ce président burkinabé assassiné en 1987 qui est resté dans les mémoires collectives comme une icône révolutionnaire et anti-impérialiste.
Et donc vous nous dites ce soir que toutes ces vidéos sont fausses ?
Oui, elles présentent plusieurs incohérences qui trahissent une génération par IA. Par exemple, on constate que le visage d'un homme dans une foule à l'arrière-plan d'un clip est déformé. Nous avons pu aussi contacter le créateur d'une de ces vidéos qui est basée au Nigeria. Il nous a confirmé que ces clips était bien produit par IA et que le prix de production d'une vidéo était de $1000. L'intelligence artificielle permet donc de produire rapidement une grande quantité de faux contenus à un coût réduit.
Et c'est de plus en plus souvent le cas. Les autorités burkinabées, est-ce que ce sont elles qui sont à l'origine de ces publications?
Alors, on n'a pas de preuve directe de l'implication du gouvernement du Burkina Faso. Mais il est clair qu'il s'agit d'une campagne coordonnée de communication qui profite aux autorités. La majorité des clips a été diffusée au mois de mai, au moment où le gouvernement lançait une campagne de soutien à Ibrahim Traoré en organisant des manifestations en son honneur au Burkina Faso, mais aussi à l'étranger.
Alors, dernière question, Quang Pham. Quel est le public qui est visé par ces faux clips?
Ibrahim Traoré cherche à devenir populaire à l'international. Les faux clips visent avant tout un public anglophone, qui est sans doute moins au courant des problèmes internes du Burkina Faso. Le pays fait en effet face à une insurrection islamiste du djihad, qui est un groupe terroriste lié à Al-Qaïda. Cette campagne de communication est peut-être aussi un écran de fumée pour détourner l'attention des attaques terroristes qui visent le Burkina Faso.
Eh bien merci Quang Pham. Et je précise qu'on peut retrouver le détail de cette enquête que vous publiez sur le site des Observateurs de France 24. Et c'est ainsi que s'achèvent les Dessous de l'Infox. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, ce sera le retour de Sophie Malibaud. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver notre émission ainsi que toutes nos actualités pour lutter contre la désinformation sur le site internet de RFI. Et pour l'heure, je vous laisse en compagnie de Philippe Le Caplain.
Et c'était donc les Dessous de l'Infox, vous êtes toujours sur RFI, c'est RFI Soir, avec dans maintenant 32 minutes, tenez, pour être précis, ce sera Afrique Soir. Afrique Soir, c'est avec vous Sylvie Berruet, et entre autres sujets, il sera question de l'île Maurice.
Oui, bonsoir à tous, nous parlerons de l'île Maurice, hein, qui s'apprête à célébrer l'accord historique signé hier avec Londres sur la rétrocession de l'archipel des Chagos, une rétrocession qui prévoit également le maintien d'une base militaire sur l'île de Diego Garcia. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo et Joseph Kabila qui doit s'exprimer ce soir sur YouTube au lendemain de la levée de son immunité, une mesure qui ouvre la voie des poursuites judiciaires contre l'ancien président qui est accusé par la justice militaire de complicité avec le groupe armé AFC M23. Nous parlerons aussi de l'inquiétude de l'ONU sur la situation au Mali. L'ONU qui dit craindre des arrestations arbitraires après la dissolution des partis politiques. La guerre au Soudan, le gouvernement qui rejette les accusations des États-Unis et qui dément le recours aux armes chimiques. Et puis vous le savez, ce sera demain la fin du 78e festival de Cannes. Plus de 4000 journalistes originaires de 90 pays ont répondu présents. Parmi eux, un Burkinabé, David Hervé Onla, qui est fondateur du site culturel en ligne Oxygène Mag.
Et d'ailleurs, RFI vous proposera une édition spéciale dans pile 24 heures, juste après le journal de 20h demain soir.